Je vous avais laissé en pleine crise internationale au Moyen-Orient, et on se demande quand il n'y a pas une crise internationale dans cette région du monde. Toujours est-il que la crise de juillet 1958 peut être définie comme une crise au bord du gouffre, comme on disait à l'époque, et donc immédiatement la prudence des acteurs permet de revenir à une situation relativement plus saine. Ainsi, dès le mois d'août, le président Eisenhower propose devant l'Assemblée générale exceptionnelle de l'ONU un plan de création d'une nouvelle institution de financement et de développement au Moyen-Orient en consultation avec l'ONU et la Banque mondiale. C'est l'idée traditionnelle que le développement économique permettrait de résoudre les problèmes politiques. De surcroît, on est dans la fin des années 50, à l'époque triomphante des théories du développement, en particulier celle de Walter Rostow, qui justement laisse supposer que des injections massives de capitaux permettrait d'obtenir ce qu'on appelait à l'époque le décollage économique, le taking off. Et Nasser se trouve très intéressé par ces propositions, mais qui ne donneront rien de concret malheureusement. Sur la situation régionale, en Irak, au grand soulagement des Occidentaux, le nouveau régime révolutionnaire se montre hostile à l'intégration à la République arabe unie et respecte les concessions pétrolières, donc un accommodement paraît possible. Au Liban, on s'est mis d'accord pour la désignation de Fouad Chehab comme président de la République et donc les Américains peuvent commencer dès le début de l'automne à ramener leurs forces, enfin à faire partir leurs forces du Liban. Et de fait, Fouad Chehab, avec un régime réformiste, avec quelques tentations un peu autoritaires parfois, se montrera neutre dans les rivalités inter-arabes, et finalement cette neutralisation du Liban paraissait ce qui était le plus souhaitable, aussi bien pour les Occidentaux que pour l'Égypte de Nasser. Alors reste la Jordanie. La répression royale a permis de mettre l'opposition au pas, mais la question jordanienne ne semble pas réglée. Tout simplement parce que l'ensemble des acteurs considèrent que la Jordanie coûte trop cher. Nasser ne veut pas intégrer la Jordanie à la République arabe unie, car il faudrait prendre les coûts de gestion de la Jordanie. Quant aux Américains, ils ne sont pas très chauds à financer à perpétuité le royaume hachémite. On a donc toute une série de conversations curieuses entre Mahmoud Fawzi, le ministre de la RAE, enfin, des Affaires étrangères de la RAE, et Foster Dulles, durant l'été 1958, dans lequel les Américains font clairement entendre que la Jordanie n'est pas un pays viable et que la meilleure solution serait probablement de fusionner la Jordanie à l'Irak dans l'avenir, puisque l'Irak a des ressources pétrolières, et que dans ce cas, les États-Unis se contenteront de financer pendant un moment le royaume jordanien dans l'attente d'une solution définitive. Et donc la RAE accepte cette idée de disparition à long terme, à moyen terme, de la Jordanie. Le seul à se préoccuper de la Jordanie, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui se rend à l'automne dans cette région du monde, et il réussit à obtenir la levée du blocus qui était imposé à la Jordanie par ses voisins arabes, syriens, saoudiens, mais pas plus. Enfin, tout le monde considère à cette époque-là que que la Jordanie n'a plus vraiment de temps longtemps à exister. Alors après cette crise de l'été 1958, Israël va se tourner vers ce qu'on appelle la stratégie périphérique, c'est-à-dire assembler les pays pro-occidentaux aux marges du monde arabe dans une alliance prenant en quelque sorte à revers par rapport à Israël les États arabes. C'est la stratégie de Ben-Gourion, de Shimon Peres, du Mossad. Ces services de renseignement israéliens seront les acteurs de cette stratégie. Alors, la première acteur, c'est évidemment l'Iran impérial, ou la SAVAK iranienne, donc l'équivalent des services de renseignement, collabore étroitement avec le Mossad. Après la révolution du 14 juillet 58, la Turquie, à son tour, entre dans cette stratégie périphérique. L'Éthiopie, qui a peur d'être encerclée par le monde arabe, se joint à l'axe périphérique et donc, en quelque sorte, le monde arabe se trouve pris à revers par cette série d'alliances théoriquement secrètes entre ces différents États pro-occidentaux. Alors, au-delà, la stratégie israélienne va s'orienter vers l'Afrique noire pour se donner une profondeur, justement, de cette stratégie périphérique. Et en même temps, puisque nous sommes dans la dernière vague de la décolonisation à partir de 1958, à chaque fois qu'un État d'Afrique noire deviendra indépendant, sera potentiellement un allié d'Israël, d'où une action efficace de coopération que les Israéliens, en particulier dans le domaine du développement, vont mener dans les années 60 en Afrique noire. Alors, pour cette stratégie périphérique, les Israéliens sont aussi très intéressés par le rôle potentiel que peut jouer la France. Nous sommes maintenant au début de la Ve République, enfin pas encore exactement, puisque nous sommes à l'été 58, et on a cherché à entrer immédiatement en contact avec le nouveau gouvernement français, et en août 58, Madame Golda Meir, en tant que ministre des Affaires étrangères, est reçue par le général de Gaulle. Alors, elle explique à de Gaulle que Nasser n'est pas le porte-parole qualifié du nationalisme arabe, c'est une créature du communisme international. Elle oppose donc Nasser au bon nationaliste, et dans la vision israélienne, un bon nationaliste, c'est celui qui s'intéresse à ses affaires intérieures, qui fait du développement économique, mais pas de politique extérieure. Alors, elle expose ses inquiétudes pour l'avenir d'Israël sur le plan plus général, et la réponse du général de Gaulle est très intéressante, parce que d'un côté, de Gaulle se passe pleinement dans le cadre de la politique précédente, celle de la 4e République, mais en même temps on trouve dès cette première prise de contact un élément central de la doctrine gaullienne par rapport au problème du Proche-Orient, et il est tout à fait probable que les interlocuteurs israéliens n'aient pas saisi cette nuance. Alors, je cite le procès-verbal. Le général de Gaulle indique qu'il comprend les alarmes d'Israël devant le mouvement d'unité arabe dirigé par Nasser et encouragé par les soviets. À son avis, cependant, il ne semble pas que les Arabes, même réellement unis, soient capables de lancer une agression contre Israël. La situation n'est pas du tout la même que dans les autres pays arabes où l'on peut procéder par coup d'État. Sic, hein, pour les autres pays arabes, il y a eu un problème dans le compte-rendu. De la prise de notes, à l'égard d'un pays compact et résolu comme Israël, les chances d'agression sont très minces. Il n'y a donc pas lieu de se montrer véritablement inquiet pour l'existence d'Israël, à moins naturellement que les soviets n'entrent en jeu. Et c'est le paragraphe suivant où on a toute la doctrine gaullienne qui annonce déjà 1967 et 1968. Dans tous les cas, le gouvernement français tient à ce que l'État d'Israël demeure là où il est. et il désire également maintenir avec lui de très bons rapports d'amitié. Ce qui a été fait du côté français envers Israël n'a pas été inutile. Le gouvernement français reste dans cet état d'esprit, mais pour des raisons évidentes, il faut éviter tout ce qui paraît compliquer inutilement une situation déjà délicate. C'est une question de tactique. Et cette notion qu'Israël doit rester là où il est va devenir un leitmotiv de la doctrine gaullienne jusqu'à la fin des 11 années du gouvernement du général de Gaulle. Alors, Couve de Murville, qui est ministre des Affaires étrangères, confirme l'attachement de la France à la déclaration tripartite, donc tout va bien. Autre bonheur, Golda Meir se rend à Londres et les Anglais de Macmillan ont abandonné toute perspective de paix israélo-arabe qui se ferait au détriment d'Israël. Ils sont même prêts à livrer des armes à Israël. Ce que Golda Meir n'a pas compris, c'est que tous ses interlocuteurs européens ont insisté sur le statu quo territorial. Or, vous vous rappelez, quelques jours auparavant, les Israéliens les avaient sondés pour savoir si éventuellement, dans le cadre de la crise jordanienne, Israël ne devrait pas soit s'emparer de la Cisjordanie, soit imposer sa tutelle sur la Cisjordanie. En tout cas, vous avez une guerre de propagande entre Israël et les pays arabes, puisque d'un côté, les Israéliens plaident pour ce qu'ils appellent le bon nationalisme, contre le mauvais nationalisme arabe de Nasser, et d'autre part, Nasser les accuse d'impérialisme, d'agression envers les pays arabes, etc. Alors, le dernier semestre de 1958 est extraordinairement calme sur les lignes d'armistice. Et pratiquement rien à noter, c'est un peu désespérant, sauf au mois de décembre, où, comme d'habitude, on a des incidents dans la zone démilitarisée israélo-syrienne liés essentiellement toujours au problème de la délimitation des secteurs d'agriculture arabe et des secteurs d'agriculture juive à l'intérieur de cette zone démilitarisée. Le problème, c'est que ces querelles de voisinage démarrent par coups de fusil et se terminent avec de l'artillerie lourde, ce qui est un peu gênant pour les uns ou pour les autres. En fait, il faut bien comprendre que l'essentiel de la politique arabe dans cette période est polarisé sur l'Irak. L'Irak, où vous avez donc deux hommes forts en théorie, Abdelsalam Arif et Abdelkarim Qassim. Qassim, c'est le moustachu qui est là. Tandis que l'autre, c'est le moustachu qui est là. Arif est un partisan de l'unité arabe, d'un rapprochement, voire peut-être même d'une intégration de l'Irak à la République arabe unie, tandis que Qassim se veut le défenseur de l'existence de l'Irak et donc rejette la perspective d'intégration. De ce fait, Qassim va s'appuyer sur le parti communiste irakien, qui est extrêmement fort dans cette période, et Arif, son rival, va s'appuyer sur les différents nationalistes arabes, et dans cette lutte pour le pouvoir, c'est Qassim qui l'emporte et qui élimine Arif des postes de direction. Et donc, vous avez, dès la fin de l'année 58, une reprise de la guerre des ondes, mais cette fois-ci entre la République arabe unie et l'Irak sur la question de l'unité arabe. De ce fait, Nasser prend un ton violemment anticommuniste, ce qui ne fait que plaisir aux Américains. Dès lors, dès décembre 58, les Américains font une offre très généreuse à Nasser, qui est d'accorder à la République arabe unie le bénéfice du programme PL 480, qui est le grand programme de coopération américaine de la période, car il s'agit tout simplement de vendre les surplus agricoles américains en monnaie locale, non convertible. Autrement dit, pour rien, hein, puisque la monnaie égyptienne n'est pas convertible. Les Égyptiens payent les céréales américaines avec leur propre monnaie. Les Américains vont progressivement avoir un stock énorme de monnaie égyptienne, puisqu'ils n'auront pas grand-chose à en faire. Alors, à part les frais de l'ambassade américaine, l'argent stocké servira aux travaux de sauvegarde des monuments pharaoniques de la Nubie. Puis c'est les Américains qui financeront le déplacement des colosses de Ramsès à Abu Simbel. Puisque de toute façon, ils avaient de l'argent et qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser, autant le faire pour cela. Et sera la contribution américaine, en quelque sorte, au projet du haut barrage d'Aswan. Puisque vous savez qu'on a été obligé de déplacer les monuments égyptiens à cause de la constitution du lac de barrage. Alors, par ailleurs, les Américains en prennent compte, puisque la nouvelle stratégie définie à cette époque-là par le Conseil national de sécurité parle d'abandonner l'isolement de la République arabe unie et, au contraire, d'amorcer un rapprochement. Alors, cela est facilité par la disparition de Foster Dulles, qui est grièvement malade, qui abandonne ses fonctions courant avril 1959 pour mourir le 24 mai 1959. Alors son successeur au département d'État, Christian Herter, est quelqu'un de plus effacé, j'ai pas pris son nom, si il est là, quelqu'un de plus effacé, et donc qui est aussi prêt à jouer la carte du rapprochement avec l'Égypte nassérienne. D'autant plus que cette Égypte nassérienne, durant l'année 1959, développe un discours violemment anticommuniste. Et donc, évidemment, ça ne peut que faire plaisir aux Américains. Et évidemment, le fait que l'Égypte soit devenue anticommuniste dans la période déplaît aux Israéliens, puisque ça veut dire que l'Égypte se rapproche des États-Unis et qu'ils ont moins de place pour une propagande assimilant le nassérisme au communisme. Alors, quelques petits incidents de frontières, mais ça ne va pas très loin durant ce début d'année 59. Et vraiment, en cette fin des années 50, jamais le secteur israélo-arabe n'a été aussi calme. Alors, on peut donner plusieurs explications à cette situation. La première, évidemment, les leçons tirées par les uns et les autres de la guerre de Suez, ce qui n'est évidemment pas un facteur négligeable, mais aussi probablement parce que la politique arabe s'est recentrée autour de Nasser et des affaires inter-arabes, la question palestinienne passant provisoirement au second plan. Ce qui nous amène là à étudier les évolutions parallèles du secteur arabe et du secteur israélien. Dans le secteur arabe, nous avons à cette époque-là une nouvelle vague de nationalisme arabe, avec le développement du mouvement des nationalistes arabes, les Harakat al-Qawmiyin, de George Habash, qui est un mouvement pan-arabe sorti de l'université américaine de Beyrouth et qui, dans cet épisode de l'histoire, se fait un peu les instruments de la politique nassérienne dans le monde arabe à l'extérieur de l'Égypte. Alors évidemment, le MNA, le mouvement des nationalistes arabes, comme le Baas, est interdit en Syrie, puisque tous les partis politiques sont dissous, mais le MNA se développe ailleurs, en Irak, dans les pays du Golfe en particulier, en Jordanie aussi, malgré la répression hachimite. Et donc Nasser va s'appuyer sur le MNA, sur Georges Habash, pour contrer le Bas qui reste le grand rival. Au Liban, donc, le Liban a retrouvé une certaine forme de stabilité politique, on l'a vu. Et la question principale reste la question jordanienne. Alors la Jordanie, tout le monde pensait qu'elle allait disparaître. Mais le problème, c'est qu'inexplicablement, le roi restait au pouvoir et conservait la monarchie. Ce n'était pas prévu par les experts, ce qui arrive souvent dans les affaires du Moyen-Orient. Alors, ce qui sauve la monarchie hachémite, c'est Israël. Car Israël a fait savoir que son intérêt politique majeur était la survie de la Jordanie comme état tampon. Et donc, Israël était prêt à entrer en guerre si un des voisins arabes de la Jordanie voulait s'emparer de la Jordanie. Ça visait tout aussi bien la République arabe unie que l'Irak. Alors, l'Irak de Qassim se pose en adversaire maintenant farouchement résolu de la République arabe unis. Les épisodes sont sanglants parce qu'à plusieurs reprises, les Nassériens tentent des soulèvements militaires en Irak avec une terrible répression, en particulier faite par les milices communistes. Vous avez à chaque fois des milliers de morts, mais en quelque sorte, le régime irakien a réussi à bloquer l'expansion nassérienne beaucoup plus que les Américains ou les Israéliens. Et dans cette période, Nasser prend un discours anticommuniste, voire islamiste, luttant contre l'athéisme du communisme international, etc., allant prier solennellement dans la mosquée des Omeyyades à Damas, enfin, et faisant sortir les muftis de la République pour condamner le communisme. Donc tout ça fait évidemment plaisir aussi aux Américains. Quant aux Soviétiques, ils savent encaisser et ils ont l'intelligence de maintenir leur aide économique à la République arabe unie, ce qui leur donne le beau rôle en disant « Vous voyez, nous sommes capables de maintenir notre aide alors que politiquement nous sommes opposés, nous ne sommes pas comme les Occidentaux qui imposent des conditions politiques à l'aide économique. » De ce fait, Nasser est parfaitement gagnant puisqu'ils reçoivent massivement et de l'aide américaine et de l'aide soviétique. Alors l'aide américaine, elle est d'abord sous forme de livraison de céréales et très rapidement, une bonne partie de l'alimentation égyptienne vient des États-Unis quasi gratuitement durant toutes ces années. Ce qui fait que ce que Nasser économise du point de vue de l'agriculture, il s'en sert pour le réinvestissement dans l'industrie. Alors, en Irak, il y a quelques problèmes avec le début de l'insurrection kurde, mais ça nous concerne pour l'instant que tout à fait marginalement. Alors, ce qui préoccupe les Arabes, c'est une nouvelle vague d'émigration juive qui vient du bloc de l'Est dans cette période. Vous voyez sur le tableau. Alors ce tableau vous montre que l'émigration juive ne vient pas d'Union soviétique directement, mais que les masses principales viennent de Roumanie d'un côté, en particulier un pic en 1961 avec plus de 20 000 personnes, et de Pologne en 1957 avec plus de 31 000 personnes. Alors, pour la Pologne, ce sont des chiffres demi-vrais, demi-faux, car en réalité, il s'agit de Juifs ayant habité dans l'ancienne Pologne d'avant 1939 qui se sont retrouvés dans l'Union soviétique en 1940 et surtout en 1945, et qu'après 1954, ces Juifs devenus soviétiques reçoivent l'autorisation de revenir en Pologne. Et de Pologne, ils partent pour Israël. En tout cas, cette immigration juive venue d'Europe de l'Est est particulièrement importante et surtout provoque de fortes inquiétudes dans le monde arabe. En ce qui concerne les Palestiniens, la question clé est le maintien de l'aide internationale représentée par l'UNRWA. La question est grave puisque normalement le mandat de l'agence doit se terminer. Et Amarjold propose durant l'été 59 ce qu'on a appelé le plan Amarjold, qui est un plan à base économique qui reprend les propositions d'Eisenhower l'année précédente, l'idée étant que la réintégration des réfugiés dans la vie économique ne peut se faire que par une élévation générale du niveau de vie des pays concernés. Parce que sinon, si on réinvestit massivement de l'argent dans la population réfugiée, ça provoquera des tensions avec la population des pays dits hautes qui seront moins privilégiés, paradoxalement, que les réfugiés. Donc, l'idée, c'est d'augmenter le capital productif de l'ensemble des pays arabes, ceci pour assurer, sans le dire, la réintégration économique des réfugiés. Il s'agirait, dans le plan Amarjold, à la fois de gérer d'importants capitaux internationaux et en même temps les premiers éléments forts de la rente pétrolière des pays du Golfe. Le principe dans lequel, sur lequel s'est fondé le secrétaire général de l'ONU, c'est que l'aide internationale est trop faible. Le résultat, c'est qu'elle maintient la population des réfugiés à un niveau de survie et n'assure pas la réintégration économique. Tandis que si on augmente considérablement l'aide, on crée les mécanismes qui permettent d'assurer la productivité de la population réfugiée et donc sa disparition progressive. Il compare ainsi ce que dépense Israël pour chaque immigré à ce que l'agence internationale consacre à chaque réfugié palestinien. On est dans un rapport d'à peu près de 1 à 100, hein, puisque les immigrés en Israël sont productifs parce qu'on investit pour chaque immigré de l'ordre de 4 ou 5 000 dollars. Tandis que ce qu'on assure à peu près pour un réfugié palestinien, c'est 50 dollars. Vous voyez ce type de rapport. Et cela ne permet pas de rendre productif la population réfugiée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on est dans un stade de transition dans la question des réfugiés palestiniens, car l'UNRWA a terminé l'aide de secours. C'est justement en 1959 que disparaissent les dernières tentes dans les camps de réfugiés et que maintenant tous les bâtiments sont en dur. Alors on voit la stratégie de l'UNRWA particulièrement nette dans le développement du secteur éducatif. Vous voyez donc la distribution ici des enfants des camps dans les écoles de l'UNRWA. Et on voit donc que l'UNRWA réussit à donner pour le primaire et le secondaire 176 000 enfants dans son réseau scolaire, ce qui est quand même tout à fait considérable. L'autre chiffre intéressant, c'est de voir la disproportion entre garçons et filles, mais une disproportion qui n'est pas immense. Vous voyez, pour le primaire, vous avez 60 000 garçons et 41 000 filles dans les écoles de l'UNRWA. Et dans le secondaire, vous avez une disproportion plus forte, 15 000 garçons et 3 200 filles. Mais on voit déjà que l'UNRWA joue aussi un rôle de promotion importante de la population féminine palestinienne. Alors, la question est donc de savoir si on pérennise ou non le mandat de l'UNRWA. Et c'est le sujet au débat, car dans la perspective d'Armageld, si on maintient l'UNRWA, c'est pour en faire une agence de développement et non plus une agence de secours. Alors, il faut dire qu'à cette date, l'UNRWA gère environ 58 camps dans la zone dite UNRWA, c'est-à-dire bande de Gaza, Jordanie, Syrie, Liban, et que ces camps représentent environ 40% de la population enregistrée comme réfugiée. Car il faut rappeler que la majorité des réfugiés enregistrés se trouvent en dehors des camps. On le voit très bien, évidemment, avec le cas de la Syrie, où vous n'avez que 20% de la population de réfugiés dans les camps, tandis que le contre-exemple est Gaza, bien évidemment, où vous avez 58% de la population qui se trouve dans les camps et des positions intermédiaires pour la Jordanie et le Liban. Chose intéressante, d'ailleurs, la proportion au Liban est plus importante qu'en Jordanie, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Mais c'est plus un problème de gestion qu'autre chose, car les camps sont maintenant des quartiers urbains. Car ces camps avaient été installés à la périphérie des agglomérations arabes à la fin des années 40, au début des années 50, mais avec la croissance démographique et l'exode rural, les agglomérations ont rattrapé les camps. Et donc maintenant, les camps font partie des grandes agglomérations urbaines du Moyen-Orient. Ce sont quelque sorte des quartiers à statut spécifique qui se sont créés. Alors ces camps, en fait, se divisent en général en deux espaces. Vous avez le camp proprement dit, avec les bâtiments en dur de l'UNRWA, et une périphérie du camp qui ne fait théoriquement pas partie du camp, dans lequel vous avez ce qu'on appelle gentiment de l'habitat spontané, c'est-à-dire des formes de bidonvilles, qui se créent dans la périphérie des camps. Ceci à la fois parce que les familles, il faut loger les gens arrivant à l'âge adulte, et quand on ne peut plus les loger dans les camps, les gens s'installent à la périphérie des camps, et qu'en même temps, les camps sont des éléments d'attraction pour deux raisons principales. D'abord parce que les camps sont des lieux où on fournit des services sociaux, en particulier dans le plan médical et dans le plan de l'éducation, mais d'autre part parce que les camps conservent les représentations familiales et géographiques de la Palestine perdue, c'est-à-dire que les groupes familiaux se retrouvent dans les camps. Tel village perdu se reproduit presque à l'identique, en tout cas pour sa population, dans un camp ou dans un autre. Donc les lignages familiaux se sont regroupés dans des espaces très cohérents. Et ce sera encore une réalité jusqu'à aujourd'hui, où les taux d'endogamie des camps palestiniens sont particulièrement forts. On se marie entre réfugiés palestiniens d'un même camp, ce qui permet de génération en génération le maintien non seulement de l'identité palestinienne générale, mais aussi des identités des lieux perdus. Alors le plan Armageld est évidemment rejeté par les pays arabes, en dépit de la prudence rhétorique du secrétaire général et des incitations financières. Alors, ceux qui militent le plus contre le plan Armageld, ce sont les Libanais, qui immédiatement mobilisent la Ligue arabe contre le projet Armageld, puisqu'à long terme, il constituerait une intégration des réfugiés dans le pays hôte, ce dont les Libanais ne veulent absolument pas. On voit donc même le plus militant des militants, ce sera le ministre chrétien Pierre Gemayel, le chef des phalanges libanaises, qui propose tout simplement la création d'un État palestinien en Cisjordanie, Ceci pour ne pas voir d'installation palestinienne définitive au Liban. Ce qui fait hurler évidemment les Jordaniens, parce qu'ils ne veulent absolument pas d'État palestinien. Du coup, on voit l'ancien mufti de Jérusalem, Benjamin al-Husseini, soutenir Pierre Gemayel en public contre la Jordanie. On soutient l'idée de création d'un gouvernement provisoire palestinien, car tout le monde est à ce moment-là frappé en 1959 par la constitution du GPRA en Algérie, du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui servirait de modèle à une institution équivalente pour les Palestiniens. Alors la Jordanie répond en faisant de Jérusalem la seconde capitale du royaume. Donc, on en discute à la Ligue arabe, on n'arrive à rien, bien évidemment, mais 59 est déjà une première étape, parce que pour la première fois depuis 10 ans, on parle d'un État palestinien, d'une entité palestinienne, on évoque même un gouvernement en exil, voire la constitution d'une armée palestinienne, chose dont on n'a pas parlé durant les 10 années précédentes. Donc, en conclusion, à l'automne 59, l'ONU renouvelle le mandat de l'UNRWA pour 3 ans. Donc, on renvoie la question à 1963, avec toujours référence au texte clé, dont en particulier le fameux paragraphe 11 de la résolution 194-3, c'est-à-dire le retour des réfugiés. C'est donc bien l'impuissance à régler le problème. Impuissance à régler le problème, mais aussi impuissance des observateurs à cette époque de 59 de voir les modifications qui sont en cours. Parce que en même temps que les camps palestiniens se stabilisent, l'identité palestinienne est en train de ressurgir. On le voit très bien dans le vocabulaire politique arabe, alors que durant l'essentiel des années 50, on a parlé d'arabe, de Palestine, on commence à parler de peuple palestinien à partir de 1959 dans les publications, dans les discours, dans les échanges rhétoriques. Même chez Nasser, qui jusque-là parlait d'arabe de Palestine, on trouve dans les discours nassériens de cette période, non pas peuple palestinien, mais peuple de Palestine, pas Charme Palestini, mais Charme Palestine. Mais ces indications du vocabulaire ne trompent pas, on est vers le début d'une résurgence de l'identité palestinienne. Alors, celui qui va en profiter, c'est Qassem. À la fin 59, il lance une virulente attaque contre les profiteurs arabes de la destruction de la Palestine, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie, et appelle tout simplement à la constitution d'un gouvernement et d'un État palestinien. Inutile de vous dire que Benjamin al-Husseini se rallie immédiatement à Qassem, parce qu'il se voit très bien à la tête de cette entité palestinienne à constituer. La République arabe unie, elle est sur la défensive sur ce sujet. Parce que d'une part, ça pose la question du statut de la bande de Gaza, et d'autre part, parce que l'insistance faite sur la reconnaissance d'une entité palestinienne repose la question de l'unité arabe. Si on crée une entité palestinienne, est-ce que les Syriens accepteraient encore de voir leur identité propre disparaître dans la République arabe unie? Alors, de façon défensive, Nasser organise une représentation palestinienne à l'intérieur du parti unique nassérien de l'Union nationale dans sa branche de Gaza. Autre débat qui se pose, c'est la question des eaux du Jourdain et des travaux israéliens de détournement des eaux du Jourdain pour alimenter la région du Negev. Et les Syriens pousseraient à une d'action militante, voire armée, pour s'opposer aux travaux israéliens. Or, Nasser n'en veut absolument pas. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces débats des années 59 et 60 sur l'entité palestinienne semblent concerner les hommes de la génération du mandat en Palestine, c'est-à-dire la génération des Husseinis, ou ceux de la génération intermédiaire. Ce que j'appelle la génération intermédiaire, c'est ceux qui avaient, disons, plus que l'âge adulte à la fin du mandat, qui étaient entrés dans l'action politique dans les dernières années du mandat et qui sont maintenant dans la force de l'âge. Celui qui symbolise mieux cette génération intermédiaire, c'est Ahmad el-Shoukairi, qui est à cette époque représentant de l'Arabie saoudite à l'ONU et qui est un orateur virulent dans les tribunes internationales pour la cause palestinienne. Et donc qui, déjà prêt à se poser pour avoir un rôle dans la future entité palestinienne. Mais ces gens de ces deux générations sont déjà, sans le savoir, des hommes du passé. Dans la dispersion due à l'exode, les réfugiés des camps ont constitué une population viscéralement opposée à toute disparition de leur identité palestinienne. Mais il faut bien comprendre que malgré tout, la population des camps est restée largement amorphe sur le plan politique, sauf parfois dans des explosions de colère destructrices qui frappaient leurs propres infrastructures, celles de l'UNRWA en particulier. Avec évidemment l'exception de l'engagement d'un certain nombre de réfugiés des camps dans les bataillons de Fedayin dans les années 50. Mais après 56, il n'y a plus de Fedayin, donc l'affaire semble réglée. Mais il faut bien comprendre que la distribution de la population des réfugiés s'est faite selon un clivage social. Ce sont les pauvres qui sont allés dans les camps. Tous ceux qui avaient un petit capital, petite, moyenne et grande bourgeoisie palestinienne, ne s'est pas retrouvé dans les camps. Les différentes bourgeoisies palestiniennes sont restées en tant que bourgeoisie. D'abord parce que, il faut se rappeler les cours précédents, la population arabe de Palestine s'était très largement enrichie dans les dernières années du mandat et qu'elle avait des capitaux extrêmement abondants. Et que pour des raisons techniques qu'on a déjà étudiées, une partie de ces capitaux se trouvait en dehors de la Palestine, ne serait-ce que sous forme de balance sterling à Londres. Et donc cette bourgeoisie palestinienne a conservé ses capitaux. Et cette bourgeoisie palestinienne s'est lancée dans les affaires. Elle a été en fait un acteur extrêmement important de ce qu'on a appelé le miracle libanais des années 50 et 60. En particulier dans le monde de l'affaire, la célèbre banque Intra, par exemple, qui était une banque palestinienne, mais aussi à différents niveaux. Le développement de Ras Beirut dans les années 50-60 s'est fait largement sur des capitaux et des initiatives de la bourgeoisie palestinienne, même si une partie de cette bourgeoisie palestinienne a acquis dans l'intervalle la nationalité libanaise. La petite bourgeoisie des fonctionnaires du mandat a trouvé un débouché professionnel rapide. C'est tout simplement les États du Golfe. Les États du Golfe en construction, avec le début de la rente pétrolière, avaient besoin d'urgence de techniciens de l'État, des fonctionnaires qui connaissent l'arabe et l'anglais. Or, c'était le cas de ces milliers de petits fonctionnaires palestiniens. Donc les Émirats du Golfe et l'Arabie saoudite ont fait un appel massif aux fonctionnaires palestiniens et aux instituteurs palestiniens, aux docteurs palestiniens, aux avocats palestiniens, parce que c'était une main-d'œuvre dont ils avaient besoin, qui avait les compétences nécessaires. Et donc dès le début des années 50, le Golfe à attirer massivement les compétences palestiniennes, au point qu'a posteriori, les Palestiniens diront que ce sont eux qui ont construit les États du Golfe, les différents Émirats et l'Arabie Saoudite elle-même, dans leur vision du monde, c'est eux qui ont construit, parce que c'est eux qui ont travaillé à la mise en place des États modernes dans les pays du Golfe. Vous avez des déplacements techniques. Quand la raffinerie d'Haïfa est fermée, les 2000 ouvriers arabes de la raffinerie d'Haïfa, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon, ils vont devenir les ouvriers des raffineries de Koweït ou de Qatar, etc. Ils sont appelés immédiatement dans les pays du Golfe, puisqu'il s'agit d'une manœuvre déjà formée. Et on voit donc que le Golfe, dès les années 50, a été le lieu où affluent massivement les compétences palestiniennes. Alors, entre la petite bourgeoisie et la classe ouvrière d'un côté qui a bénéficié du Golfe et la grande bourgeoisie d'affaires, vous avez une catégorie intermédiaire. Cette catégorie intermédiaire s'est certainement largement appauvrie par rapport à la fin du mandat. Mais elle a fait comme on l'a fait tout groupe dans la même situation, elle a investi massivement dans l'éducation de ses enfants. Et donc, les écoles, enfin les universités du monde arabe sont remplies d'étudiants palestiniens. Et c'est en même temps un milieu ultra-politisé où recrutent tous les mouvements radicaux du monde arabe, nationalistes arabes, progressistes de gauche ou au contraire islamistes, frères musulmans. C'est ainsi que le MNA est démarré à partir de l'université américaine de Beyrouth. En Égypte se trouve la plus importante concentration d'étudiants palestiniens, avec une très active fédération des étudiants palestiniens, dont le chef est un certain Mohamed Abdel Raouf El-Kidwa El-Husseini, qui entrera dans l'histoire sous le nom de guerre de Yasser Arafat. Alors vous avez sur cette photo rare le jeune étudiant Yasser Arafat ici, offrant au général Naguib une pétition d'étudiants palestiniens signée de leur sang pour demander de ne pas oublier la Palestine. Alors, ces étudiants du Caire ont d'abord milité chez les frères musulmans, tout simplement parce que les frères musulmans étaient ceux qui étaient les plus actifs pour la cause palestinienne dans les années 1950. Certains, comme Khalil al-Wazir, qui entrera dans l'histoire sous le nom de guerre d'Abu Jihad, ont même servi dans les groupes de Fedayin. On comprend leur désarroi en 54-55, quand les frères musulmans sont interdits et entrent en conflit direct avec le régime des officiers libres. Ces étudiants palestiniens essayent de se tenir à l'écart de la véritable guerre ouverte entre les islamistes et les nationalistes arabes, mais pour les services nassériens, ils sont toujours soupçonnés d'appartenir à la mouvance des frères musulmans. Alors, il faut mettre un certain nombre d'années pour faire leurs études, parce que comme ils font du militantisme politique fort actif, ça allonge les études en général. Et donc, ces jeunes gens quittent l'Égypte à la fin des années 50 pour prendre des activités professionnelles. Et aussi pour fuir la répression nassérienne, parce qu'ils sont soupçonnés d'appartenance aux frères musulmans. Alors, c'est évidemment les pays du Golfe qui les attirent, et en particulier Koweït. C'est ainsi que le jeune Yasser Arafat arrive en 1957 à Koweït. Alors, dans ces pays du Golfe, ils découvrent tous leurs camarades immigrés palestiniens venus des autres régions du monde arabe. Avec une même opposition finalement dans tous ces groupuscules palestiniens, c'est l'hostilité au nassérisme. Nasser est accusé d'avoir sacrifié la cause palestinienne. Alors, il y aura des dizaines et dizaines de groupuscules de jeunes, vous en avez autour de 30 ans maintenant, palestiniens dans les pays du Golfe, et l'histoire en va retenir un qui entrera sous le nom de Fatah, F-A-T-H-A-H, pardon, qui est l'acronyme renversé de Mouvement de Libération de la Palestine, mais qui signifie aussi conquête au sens islamique du terme. Alors, ce qui va donner au Fatah son démarrage, c'est que le Fatah va rédiger un bulletin de liaison qui s'appellera l'appel de la vie, notre Palestine, Nida El Hayat Filastinouna. Et ce bulletin clandestin du Fatah va amener progressivement un certain nombre de groupuscules palestiniens à rejoindre le Fatah, à fusionner avec le Fatah. Les idées du groupe clandestin sont simples. Combat permanent contre Israël, refus de tout accord qui maintiendrait l'existence d'Israël, rejet de toute tutelle des États arabes, prise en main par les Palestiniens de leur sort, concentration de tous les moyens en faveur de la lutte armée. Dès 60-61, ces militants clandestins préparent la lutte armée. Alors, pour l'instant, il faut bien comprendre, c'est quelques centaines de militants dispersés dans un certain nombre de pays arabes, mais qui ont déjà en train de constituer des cellules clandestines pour préparer le passage à la lutte armée. Leur inspiration principale, c'est évidemment le FLN algérien, qui sert de modèle, et sur le plan doctrinal, on est maintenant relativement loin des frères musulmans, c'est plutôt, comme pour toute cette génération, les écrits de Frantz Fanon, qui est le grand idéologue de la révolution du tiers-monde, et ces jeunes militants palestiniens sont des fanoniens. Un peu plus tard, ils découvriront Che Guevara, la révolution cubaine, etc. Donc, ça, c'est l'évolution palestinienne qui, si elle apparaît dans le discours politique, est encore plus importante finalement dans la structuration politique clandestine dans ces années où apparemment il ne se passe pas grand-chose. De côté israélien, la question essentielle va devenir le rapport à l'histoire et le rapport à la diaspora, ainsi que le rapport à l'Allemagne. En 1959, il y a eu un scandale en Israël parce que les Israéliens ont vendu des armes à l'Allemagne fédérale, ce qui était considéré par l'opposition de droite comme un scandale épouvantable, alors que, encore une fois, Ben Gurion disait qu'il fallait agir par pragmatisme parce que l'essentiel était d'agir pour la survie de l'État d'Israël. Ben Gurion dit clairement, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est les disciples d'Hitler dans les pays arabes et pas l'Allemagne d'aujourd'hui. Ça, c'est notre priorité. Nous n'avons pas la possibilité de rendre la vie aux victimes des massacres, mais nous pouvons éviter de nouveaux désastres par le renforcement de notre sécurité. Alors, c'est dans ce contexte qu'en 59 éclate la crise dite de Wadi Salib. Wadi Salib qui pose la question du rapport entre Séfarade et Ashkenaz en Israël. Il faut bien comprendre que l'immigration venue des pays arabes en Israël n'a touché que marginalement les pays arabes voisins d'Israël. D'abord parce que les communautés juives de ces pays étaient relativement peu importantes sur le plan numérique et que d'autre part, quand ces communautés ont commencé à se dissoudre, elles sont en partie parties vers l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, en particulier pour les Juifs égyptiens. Ceux qui sont venus en première vague en Israël, ce sont les Juifs yéménites, vous vous rappelez, et les Juifs irakiens, qui étaient des communautés numériquement beaucoup plus importantes. Ensuite, il y a eu les Juifs libyens. Enfin, plus massivement et à faire à mesure des indépendances maghrébines, les Juifs du Maghreb proprement dit, Tunisie, Maroc et Algérie. Donc, là, vous avez sur ce tableau la population juive des pays arabes en 1948 et ensuite les immigrations vers Israël de 1948-51, 1952-60 et 1961-64. On y ajoutait la Turquie pour des raisons techniques puisque c'était le même type de communauté. Donc vous voyez que l'immigration venue de Syrie, Liban a été faible. L'Égypte aussi, moins de la moitié des Juifs égyptiens sont partis vers Israël. En revanche, évidemment, les gros bataillons de l'Irak et du Yémen. Mais ensuite, l'arrivée des Juifs libyens massive entre 1948-51, Tunisie, Algérie. Algérie faible pour les années qui nous intéressent parce que de toute façon, l'essentiel des Juifs algériens ont opté pour la France en 1962. Enfin, ils avaient la nationalité française, ils étaient considérés comme des pieds noirs comme les autres. En revanche, c'est les Marocains qui arrivent massivement à partir de 1952. Et on le voit bien, 95 000 Marocains entre 52 et 60 et 100 000 entre 61 et 64. Donc là, on voit ces vagues massives d'immigrants venus des pays arabes. Ce qui, évidemment, a amené des transformations considérables de la population d'Israël. Alors là, vous avez le rapport entre Arabes et Juifs dans l'État d'Israël. Avec malgré tout le fait que la très forte natalité arabe permet relativement à la population arabe de maintenir son pourcentage par rapport à la population globale de l'État d'Israël en dépit des vagues d'immigration successives. Alors, ces départs débouchent sur la disparition de communautés dont certaines avaient plus de 2000 ans d'existence. C'est évidemment, du point de vue historique, un drame considérable. Alors, ces départs s'expliquent pour plusieurs raisons. D'abord, la première est l'impact même du conflit israélo-arabe qui fait considérer ces communautés juives comme des cinquièmes colonnes potentielles à l'intérieur des pays arabes. Et on doit dire que les Israéliens n'ont rien fait pour empêcher cela puisqu'ils ont au contraire utilisé ces communautés juives pour des réseaux d'espionnage, voire d'action psychologiques et autres, à l'intérieur des pays arabes. Vous vous rappelez, c'est l'affaire Lavon pour les Juifs égyptiens. Très fortement, surtout pour les Juifs yéménites et les Juifs marocains, c'est un judaïsme populaire extrêmement religieux et l'immigration, la montée vers Israël a été ressentie plus comme ayant une signification religieuse qu'une signification national, quasiment messianique. C'était un retour à la terre d'Israël, mais dans un sens extrêmement religieux, plutôt que dans un sens de nationalisme politique moderne. Enfin, on a la même évolution dans les pays arabes que dans les pays de l'Est, c'est-à-dire que la construction nationale étatique passe par l'élimination des minorités. On l'a déjà vu, vous rappelez, pour les pays de l'Est européens après 1945. Et au-delà de l'Holocauste, même des pays comme la Bulgarie et la Roumanie ont fait partir leurs juifs, ou laissé partir leurs juifs, parce que dans l'intérieur des nouveaux régimes communistes, ils visaient l'homogénéité de population. Et là, on retrouve le phénomène dans les pays arabes. Il ne faut pas négliger le fait que les communautés juives des pays arabes n'ont pas participé depuis un siècle à la constitution de la culture arabe moderne. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul écrivain d'origine juive notable dans la Renaissance littéraire arabe de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Les élites juives des pays arabes se sont modernisées au sein d'une occidentalisation, et en particulier par le biais de l'Alliance israélite universelle qui les a francisées massivement. Alors certes, dans les pays plus traditionnels comme le Yémen, le Maroc, voire même dans certains cas l'Algérie, les communautés juives participaient à la vie culturelle, mais à la vie populaire. Ils ont joué un rôle important dans l'artisanat, dans la musique traditionnelle, etc. Mais on peut dire que même avant le sionisme, les juifs des pays arabes n'ont pas participé à la constitution de la modernité dans les pays arabes, ce qui les oppose totalement aux chrétiens des pays arabes, qui au contraire ont été des acteurs essentiels de la modernité arabe. Ce n'est pas passé sans difficulté et sans tension entre musulmans et chrétiens dans les pays arabes, mais le fait fondamental est que la culture arabe moderne s'est fondée largement sur la participation des chrétiens. Et évidemment, ce clivage se reproduit puisque les juifs sont absents de cette culture arabe moderne. Donc c'est aussi une explication complémentaire au phénomène de disparition de ces communautés millénaires. Le problème, c'est un problème de chronologie. La première vague d'immigrants en Israël après la création de l'État étaient les juifs dits personnes déplacées venues d'Europe. C'est elles qui, soyons clairs, ont participé au partage des dépouilles palestiniennes. C'est elles qui ont hérité des maisons des populations arabes à Jérusalem, à Haïfa, Jaffa, etc. Quand les juifs des pays orientaux arrivent, ils sont logés dans des camps de transit, ils ne bénéficient pas du même traitement pour les Ashkénazes venus d'Europe. Alors, ce clivage va se prolonger ensuite, puisque l'État d'Israël, qui est un État dirigiste, va orienter les nouvelles populations vers les secteurs à peupler, qui sont les secteurs de l'intérieur, le Negev, etc., les régions vidées des populations arabes, alors que les populations ashkénazes restent plutôt sur la région, dans les zones littorales, qui étaient déjà les zones d'implantation du mandat, qui sont théoriquement plus agréables à vivre, etc. Et finalement, la nouvelle vague d'immigration venue d'Europe de l'Est à la fin des années 50 va être le détonateur. Les séfarades vont se juger que ces nouveaux arrivants vont être beaucoup mieux traités que eux qui restent encore, dans certains cas, dans des camps de transit, alors que l'on donne immédiatement des maisons, des appartements, des emplois aux juifs venus des pays de l'Est. Et ça va provoquer des explosions sociales en 1959, qui partent du quartier de Wadi Salib à Haïfa. Alors, je ne vous apprendrai rien, disons qu'un fait divers où la police agit avec brutalité provoque des manifestations de protestation qui tournent à l'émeute. Les manifestants s'en prennent aux bâtiments officiels, au commerce et aux voitures. Ça, c'est à Haïfa en 1959. Donc, vous avez un cycle d'émeutes dans les principales agglomérations israéliennes venues des juifs dits marocains, et qui, évidemment, repose la question de l'identité israélienne. Et ça pose un débat. Alors évidemment, le gouvernement annonce des mesures sociales pour améliorer le sort des populations déshéritées. Quant à l'opposition, en particulier le Herut de Menachem Begin, elle pense dès cette époque capitaliser le mécontentement de la population séfarade en ouvrant son recrutement et en se faisant le porte-parole des populations séfarades, ce qui va créer donc ce paradoxe apparent israélien, qui est que la droite israélienne va recruter massivement à partir des années 60 dans la population séfarade, qui globalement a un niveau de vie beaucoup plus faible que la population ashkénaze, qui elle se retrouvera plus facilement dans le parti socialiste, dans les organisations socialistes. Donc si vous voulez bien, la droite est un électorat plus pauvre que la gauche en Israël. Bon, je sais que ça peut se retrouver dans un certain nombre de cas, mais on n'a jamais vu un clivage aussi massif dans une population que celui-là. Les élections de novembre 59 restent quand même largement marquées par la victoire des socialistes du Mapai, 49 sièges au lieu de 40, plus 4 sièges pour les listes arabes affiliées. Et le Mapai, le parti socialiste de Ben Gourion, reste donc le pilier indispensable à toute coalition. Et donc il construit une coalition relativement large de partis religieux et laïcs autour de lui. Ce qu'il faut surtout noter dans le nouveau gouvernement israélien, c'est l'arrivée au poste ministériel de la génération de la jeune garde du Mapai, c'est-à-dire les jeunes de Ben Gourion, ce qu'on peut appeler tout simplement l'écurie de Ben Gourion, avec Moshe Dayan à l'agriculture, Shimon Peres, sous-secrétaire d'État à la Défense, compte tenu que Ben Gourion conserve le portefeuille de ministre de la Défense à côté de président du Conseil. Donc, en fait, c'est Shimon Peres qui fait l'administration pour Ben Gourion du ministère de la Défense, Abba Eban comme ministre sans portefeuille. Alors, cette montée de la jeune garde inquiète la vieille garde du parti, qui a très peur de voir cette jeune garde les supplanter dans les postes de commande. C'est le cas de Golda Meir aux affaires étrangères et de Levi Eshkol aux finances. D'autant plus que le grand thème de Ben Gourion, c'est la suppression du scrutin proportionnel et donc l'établissement d'un scrutin uninominal à deux tours à base territoriale, ce qui mettrait fin au système de représentation des partis. Et ça, la vieille garde n'en veut pas. Et donc, elle fera tout pour s'opposer au projet de Ben Gourion de réforme électorale. Alors là, je vous fais quand même une pause de 5 minutes.